Le grand pouvoir de la prière par Saint Alphonse de Ligorie, édition Le Laurier. Introduction. J'ai publié divers ouvrages de spiritualité, mais j'estime n'avoir rien composé de plus utile que ce petit livre où je parle de la prière, indispensable et sûr moyen d'obtenir le salut éternel et les grâces nécessaires. Je n'en ai pas la possibilité, mais si je le pouvais, je voudrais imprimer autant d'exemplaires de ce petit livre qu'il se trouve de fidèles vivant sur terre et les distribuer à chacun d'eux, afin que chacun comprenne la nécessité où nous sommes tous de prier pour nous sauver. Je dis cela car, d'une part, je vois cette absolue nécessité de la prière si fortement affirmée par la Sainte Écriture tout entière et par tous les saints pères, et car, d'autre part, je vois les chrétiens peu attentifs à utiliser ce grand moyen de salut. Ce qui m'afflige le plus, c'est de constater que les prédicateurs et les confesseurs sont peu préoccupés d'en parler à leurs auditeurs et à leurs pénitents. Les livres de spiritualité, répandus aujourd'hui parmi les fidèles, eux non plus n'en parlent pas suffisamment. Cependant, tous les prédicateurs et confesseurs, tous les livres, ne devraient rien insinuer avec plus d'insistance et de chaleur que l'obligation de prier. Ils inculquent, sans doute, aux âmes de nombreuses et excellentes méthodes pour conserver en soi la grâce de Dieu, telles la fuite des occasions, la fréquentation des sacrements, la résistance aux tentations, l'audition de la parole de Dieu, la méditation des vérités éternelles et choses semblables, toutes fort utiles, on ne le nie point. Mais, je le demande, à quoi servent les sermons, les méditations et tous les autres moyens indiqués par les maîtres en spiritualité sans la prière ? Quand le Seigneur a déclaré ne vouloir octroyer les grâces, sinon à qui prie ? Demandez et vous recevrez. Jean 16, 24. Sans la prière, selon la providence ordinaire, resteront inutiles toutes nos méditations, toutes nos résolutions et toutes nos promesses. Si nous ne prions pas, nous serons toujours infidèles à toutes les lumières reçues de Dieu et à tous les engagements pris. Pour faire actuellement le bien, vaincre les tentations, pratiquer la vertu, en somme, pour observer entièrement les divins préceptes, sont insuffisantes les lumières reçues, nos propres considérations et nos résolutions. Il y faut de plus le secours actuel de Dieu. Or, le Seigneur ne l'accorde qu'à celui qui prie, et prie avec persévérance. Les lumières reçues, les considérations et les résolutions servent à ceci, à nous faire actuellement prier dans les tentations et dans les dangers de transgresser la loi de Dieu. Avec la prière, nous obtenons le secours divin qui, à son tour, nous préserve du péché. Mais si alors nous ne prions pas, nous sommes perdus. J'ai voulu, chers lecteurs, faire précéder, par l'exposé de mon sentiment, tout ce que j'écrirai dans la suite, afin que vous remerciez le Seigneur qui, par l'intermédiaire de mon petit livre, vous accorde la grâce de prier avec une conviction plus profonde sur l'importance de ce grand moyen. En effet, tous ceux, nous parlons des adultes, qui se sauvent ordinairement par cet unique moyen. C'est pourquoi, dis-je, remerciez en Dieu, car elle est bien grande sa miséricorde envers les âmes auxquelles il départit lumière et grâce pour prier. Et vous, mon frère bien-aimé, je l'espère, après avoir parcouru ce court traité, vous ne manquerez plus de recourir à Dieu chaque fois que vous serez tenté de l'offenser. Et si jamais vous vous sentez la conscience chargée de nombreux péchés, vous en reconnaîtrez la cause dans votre négligence à prier et à chercher auprès de Dieu le secours pour résister aux tentations qui vous ont assaillis. Je vous engage donc à le lire et le relire avec toute votre attention, non parce qu'il est le produit de mon esprit, mais un moyen offert par Dieu en faveur de votre salut éternel. Dieu vous donne là un gage particulier de sa volonté de vous sauver. L'ayant lu, faites votre possible pour en amener d'autres à le lire, amis ou concitoyens, avec qui vous conversez. Commençons donc au nom du Seigneur. Notion préliminaire. L'apôtre écrivait à Timothée : Je te conjure donc d'avoir soin surtout que l'on fasse des obsécrations, des prières, des demandes et des actions de grâce. 1 Timothée 11:1. Le docteur Angélique Saint Thomas explique que la prière est une élévation de l'âme vers Dieu. La demande est à proprement parler la prière. Elle s'appelle ainsi quand elle a pour objet des choses déterminées. Sont-elles indéterminées, comme dans l'invocation « Seigneur, venez à mon aide » psaume 69.1, la prière se nomme une supplication. L'obsécration est une pieuse adjuration ou instance pour implorer la grâce, comme dans ces paroles « Par votre croix et votre passion, délivrez-nous, Seigneur ». Enfin, l'action de grâce est le remerciement pour les bienfaits reçus. Grâce à elle, dit saint Thomas, nous méritons d'en recevoir de plus grandes. La prière, dans son acceptation spéciale, d'après ce saint docteur, signifie le recours à Dieu, mais dans son acceptation générale, elle contient les autres parties mentionnées plus haut. Et telles nous l'entendrons, l'appelant désormais du nom d'oraison ou de prière. Pour nous attacher à ce grand moyen de salut, la prière, il nous faut donc considérer à quel point elle nous est nécessaire et quelle est son efficacité pour obtenir toutes les grâces que nous attendons de Dieu, si nous savons les demander comme il convient. Saint Alphonse de Ligorie. La nécessité de la prière. La prière nécessaire au salut par nécessité de préceptes et de moyens. Les Pélagiens, c'était une de leurs erreurs, prétendaient que la prière n'était pas nécessaire au salut. Pour Pélage, l'homme se perd seulement par la négligence à s'instruire des vérités nécessaires à connaître. Mais, chose étonnante, écrivait saint Augustin, Pélage voulait traiter de n'importe quoi, sauf de la prière, cet unique moyen, comme enseignait le saint, d'acquérir la science des saints. Selon cet avis de saint Jacques, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous largement et sans faire de reproche. Jacques 1:5. Bien clairs sont les textes de l'Écriture qui nous font voir la nécessité où nous sommes de prier si nous voulons nous sauver. Il faut toujours prier sans se lasser. Luc 18:1. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Matthieu 27:41. Demandez et vous recevrez. Matthieu 7:7. Ces paroles, il faut prier, demander, suivant l'opinion commune des théologiens, signifient un précepte et une nécessité. Wycliffe soutenait que ces textes s'entendaient non de la prière, mais seulement de la nécessité des bonnes œuvres. De la sorte, à son sens, prier n'était pas autre chose que bien agir. En quoi il faisait erreur, erreur expressément condamnée par l'Église. D'où le savant Lessius écrivait « On ne peut nier, sans erreur dans la foi, que la prière soit nécessaire aux adultes pour le salut. Car il ressort que la prière est l'unique moyen d'obtenir les secours nécessaires au salut. Sans le secours de la grâce, nous ne pouvons faire aucun bien. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15:5. Saint Augustin observe que Jésus-Christ ne dit pas « Vous ne pouvez rien achever, mais rien faire ». Par là, notre Sauveur donne à entendre que, sans la grâce, nous ne pouvons même pas commencer à faire le bien. Il y a plus. De nous-mêmes, nous sommes incapables même d'une bonne pensée. Toute notre capacité nous vient de Dieu. 1 Corinthiens 3:5. Si donc il nous est même impossible de penser au bien, encore moins nous sera-t-il possible de le désirer. De nombreux passages de l'Écriture expriment la même vérité. C'est Dieu qui opère tout en tous. 1 Corinthiens 12, 6. Je ferai en sorte que vous marchiez dans la voie de mes préceptes et que vous gardiez et accomplissiez mes commandements. Ézéchiel 36, 27. Comme dit le deuxième concile d'Orange, nous ne faisons aucun bien, hors celui que Dieu, par sa grâce, nous fait accomplir. Aussi, le concile de Trente a-t-il déclaré, « Si quelqu'un dit que sans être prévenu par l'inspiration du Saint-Esprit et sans son secours, l'homme peut croire, espérer, aimer ou se repentir comme il doit, pour que lui soit conférée la grâce de la justification, qu'il soit anathème. » L'auteur de l'œuvre imparfaite, parlant des animaux, nous dit « Le Seigneur a fourni aux animaux de quoi préserver leur existence, aux uns la course, aux autres les griffes ou les ailes. Mais l'homme a été formé de telle sorte que Dieu, lui seul, fut toute sa force. L'homme est donc totalement impuissant à se procurer de lui-même son salut, Dieu le voulant ainsi. Tout ce qu'il a et peut avoir, il doit tout recevoir du secours de la grâce. Or, ce secours, la grâce, le Seigneur, selon le cours ordinaire de sa providence, ne l'accorde qu'à celui qui prie, suivant la célèbre sentence « Nous le croyons, personne ne se dirige vers le salut éternel sans une invitation divine. Personne étant appelé n'opère son salut sans le secours de Dieu. Personne, s'il ne prie, ne mérite ce secours. Voici donc, sans le secours de la grâce, nous ne pouvons rien. Mais un tel secours, Dieu ne le donne ordinairement qu'à celui qui prie. En conséquence, la prière est absolument nécessaire à notre salut. Les premières grâces, il est vrai, comme la foi ou la pénitence, nous parviennent sans aucune coopération de notre part. Dieu les donne, dit saint Augustin, même à ceux qui ne prient pas. Néanmoins, le saint tient pour certain que les autres grâces, et spécialement le don de la persévérance, sont accordées seulement à celui qui prie. De là, les théologiens, avec saint Basile, saint Jean Chrysostome, Clément d'Alexandrie et d'autres, avec saint Augustin, enseignent que la prière est nécessaire aux adultes, non seulement par nécessité de précepte, comme nous l'avons vu, mais encore par nécessité de moyens. Cela veut dire que, selon la providence ordinaire, il est impossible à un fidèle de se sauver sans se recommander à Dieu, sans lui demander les grâces indispensables au salut. Saint Thomas enseigne la même chose en ces termes. Après le baptême, une continuelle prière est nécessaire à l'homme pour entrer au ciel. Le baptême, il est vrai, nous remet nos péchés, mais il nous reste à vaincre le foyer du péché qui nous attaque au dedans et le monde et le démon qui nous attaquent au dehors. La raison donc qui, selon le docteur Angélique, nous rend certains de la nécessité de la prière tient en deux mots. Pour nous sauver, nous devons combattre et vaincre. Celui qui lutte dans l'arène ne sera pas couronné à moins d'avoir lutté selon les règles. 2 Timothée 2,5. En revanche, sans le secours divin, nous sommes incapables de résister aux forces d'ennemis si nombreux et si puissants. Donc sans prière, pas de salut. Que la prière soit l'unique moyen ordinaire pour obtenir les dons de Dieu, le même saint Thomas le confirme ailleurs. Toutes les grâces que le Seigneur, dans ses décrets éternels, a déterminé de nous accorder, il ne veut nous les donner par d'autres moyens que la prière. Saint Grégoire écrit lui aussi « Les hommes, en demandant, méritent de recevoir ce que Dieu, de toute éternité, a résolu de leur donner. Non pas, ajoute saint Thomas, que parler soit requis pour que Dieu connaisse nos besoins, mais pour que nous entendions, nous, la nécessité où nous sommes de recourir à Dieu, afin de recevoir les secours utiles au salut et le reconnaître pour unique auteur de tout bien. Ainsi donc, comme le Seigneur a établi que nous soyons pourvus de pain en semant le blé et de vin en plantant la vigne, De même, il a voulu que nous recevions les grâces nécessaires au salut au moyen de la prière. Demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Matthieu 7:7. En définitive, nous sommes de pauvres mendiants, avec pour unique avoir ce que Dieu nous donne en aumône. Je suis mendiant et indigent. Psaume 39:18. Le Seigneur, dit saint Augustin, désire et veut nous dispenser ses grâces, mais seulement à qui les demande. Dieu le déclare en ces termes : demandez et il vous sera donné. Donc, conclut sainte Thérèse, qui ne demande pas ne reçoit pas. Comme les sucs de la terre sont indispensables pour que les plantes poussent et ne se dessèchent point, ainsi, explique saint Jean Chrysostome, la prière est indispensable pour notre salut. Ailleurs, le même saint dit que, de même que le corps sans l'âme ne peut vivre, ainsi l'âme sans prière est morte et répand une odeur cadavérique. Il écrit « répand une odeur cadavérique », car en effet, celui qui néglige de se recommander à Dieu ne tarde pas à être infecté de péché. Toutes ces comparaisons employées par les saints pères soulignent de l'absolue nécessité pour tous de prier pour aboutir au salut. Sans la prière, impossible de résister aux tentations et de pratiquer les commandements. La prière est l'arme la plus indispensable pour nous défendre contre nos ennemis. Qui ne l'utilise pas, dit saint Thomas, est perdu. Ce saint n'en doute pas. Adam tomba précisément faute de s'être recommandé à Dieu lors de sa tentation. Saint Gélase a écrit la même chose parlant des anges rebelles. Recevant en vain la grâce divine, ils ne surent s'y maintenir faute de prière. Selon la remarque de saint Charles Borromée dans une lettre pastorale, entre tous les moyens que Jésus-Christ nous a recommandés dans l'Évangile, il a donné le premier rang à la prière. Il a voulu que son Église se distingue des autres Églises en s'appelant par excellence la maison de la prière. « Ma maison s'appellera la maison de la prière » Matthieu 21:13. Et le saint de conclure, « La prière est le commencement, le progrès et le couronnement de toutes les vertus. » Ainsi, dans les ténèbres, dans les misères, dans les dangers où nous nous trouvons, plus d'autre recours pour fonder notre espoir que de lever les yeux vers Dieu et, par la prière, d'implorer notre salut de sa miséricorde. « Ne sachant plus quelle partie prendre, disait le roi Josaphat, il nous reste seulement à diriger vers vous nos regards. » 2 Chroniques 20:12. David disait de même, lui aussi, ne découvrir d'autres moyens pour éviter d'être la proie de ses ennemis que de supplier continuellement le Seigneur de le délivrer de leurs embûches. Sans cesse mes yeux regardent le Seigneur, du filet il libère mes pieds. Psaume 25:15. Aussi ne faisait-il rien d'autre que prier et dire à Dieu, regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis pauvre et délaissé. J'ai crié vers toi, sauve-moi, afin que je garde tes commandements. Psaume 119-146. Seigneur, dirigez vers moi vos yeux, ayez pitié de moi et sauvez-moi, car je suis impuissant et hors de vous, je n'ai aucun secours à attendre. Surtout après que le péché d'Adam, notre premier père, nous a rendus si faibles et infirmes, comment pourrions-nous résister à la puissance de nos ennemis et observer les commandements divins si nous n'avions pas, dans la prière, le moyen capable d'obtenir de Dieu la lumière et la force suffisantes pour les observer. Blasphématoire, certes, cette affirmation de Luther, après le péché d'Adam, l'observation de la loi divine est devenue absolument impossible aux hommes. Jansénus, à son tour, soutient que certains commandements étaient impossibles même aux justes, eu égard à leur force actuelle. Telle quelle, sa proposition aurait été susceptible d'une bonne interprétation. Mais l'Église la condamna avec raison, à cause de ce qu'il y ajoute « L'homme est en outre privé de la grâce qui rendrait possible ses commandements. » « C'est vrai, dit saint Augustin, vu sa faiblesse, l'homme ne peut accomplir certains préceptes par ses forces actuelles et avec la grâce ordinaire ou commune à tous. Mais il peut obtenir par la prière le secours plus puissant exigé pour leur observation. Car Dieu ne commande pas des choses impossibles, mais quand il les commande, il nous demande de faire ce qui nous est possible et de lui demander ce qui ne nous est pas possible. Et il nous aide pour que cela nous devienne possible. Texte célèbre adopté comme dogme par le Concile de Trente. Le saint docteur ajoute immédiatement « Voyons comment, par ce remède, l'homme pourra ce que par défaut il ne pouvait pas, c'est-à-dire comment l'homme peut accomplir ce dont il est incapable. » Bref, c'est par la prière que nous obtenons le remède à notre faiblesse, car si nous prions, Dieu nous accorde la force de réaliser ce qui n'était pas en notre pouvoir. Il n'est pas croyable, dit saint Augustin, que le Seigneur ait voulu nous obliger à l'observation de la loi et qu'ensuite il nous ait imposé une loi impossible. C'est pourquoi le saint ajoute « Lors donc que Dieu nous fait connaître notre impuissance à garder tous ses commandements, il nous avertit de faire les choses faciles, avec la grâce ordinaire qu'il nous donne, et ensuite les choses difficiles, avec le secours supérieur que nous pouvons obtenir au moyen de la prière. » Mais pourquoi, objectera quelqu'un, Dieu nous a-t-il donné des préceptes au-dessus de nos forces? Précisément, répond le saint, afin que nous veillions à obtenir, par la prière, l'aide pour accomplir ce que nous ne pourrions pas. Et dans un autre passage, la loi ne peut être observée sans la grâce, et Dieu, dans ce but, nous a donné la loi, afin que nous le supplions toujours de nous donner la grâce d'y obéir. Ailleurs, il demande « La loi est bonne si quelqu'un en use bien. Qu'entendre par ce bon usage ?» Il répond « Par la loi, connaître sa maladie et chercher le divin secours pour recouvrer la santé. » Nous devons nous servir de la loi, mais dans quel but ? Pour connaître au moyen de la loi, ce qui est sans elle serait impossible, notre impuissance à l'observer et obtenir ainsi, par la prière, le secours divin qui guérit notre faiblesse. Saint Bernard écrit « Que sommes-nous ? Où est donc notre force pour être capable de résister à de si nombreuses tentations ? Certes, le dessein de Dieu était que nous voyant déficients et sans espoir d'autre secours, nous recourions en toute humilité à sa miséricorde. Le Seigneur sait combien cette nécessité de prier nous est utile pour nous maintenir dans l'humilité et pour exercer notre confiance. Il permet l'assaut d'ennemis supérieurs à nos forces, dans le but de nous obliger à obtenir de sa miséricorde, par la prière, le secours pour résister. Remarquez spécialement que personne ne peut résister aux tentations impures, charnelles, s'il ne se recommande à Dieu quand il est tenté. C'est un ennemi si terrible qu'il nous enlève, lors de ses attaques, toute lumière et nous ôte le souvenir de toutes nos méditations et de nos bonnes résolutions. Il nous porte à faire peu de cas des vérités de la foi et nous fait presque perdre la crainte des châtiments divins. Cette tentation, en effet, s'allie au penchant naturel qui nous pousse avec une extrême violence vers les plaisirs des sens. Qui ne recourt pas à Dieu est perdu. L'unique défense contre cette tentation, c'est la prière, dit saint Grégoire de Nice. La prière est la sauvegarde de la pureté. Et Salomon s'est déjà exprimé dans le même sens. Persuadé que je ne pouvais posséder ce trésor si Dieu ne me le donnait, je m'adressais à Dieu et le priais. Sagesse 8.2. La chasteté est une vertu que nous n'avons pas la force de pratiquer si Dieu ne nous l'accorde pas. Et Dieu n'accorde cette force qu'à celui qui la demande. Mais qui la demande l'obtiendra certainement. En conséquence, enseignait d'avance saint Thomas contre Jansénus, nous ne devons pas déclarer impossible la chasteté ou tout autre précepte, puisque, malgré l'impossibilité de l'observer par nos propres forces, nous le pouvons néanmoins avec l'aide de Dieu. Ne dites pas « commander à un boiteux de marcher droit me semble une injustice ». Non, répond saint Augustin, il n'y aura pas d'injustice si on lui fournit le moyen de trouver le remède qui guérira son infirmité. Si, après cela, il continue à marcher de travers, à lui la faute. En résumé, dit le même saint, ne saura jamais bien vivre qui ne saura bien prier. Et, ajoutait saint François d'Assise, sans prière, on ne peut jamais espérer aucun bon fruit dans une âme. Il s'excuse donc à tort ces pécheurs qui déclarent ne pas avoir la force de résister aux tentations. Mais, comme le leur reproche saint Jacques, si cette force vous manque, pourquoi ne pas la demander ? Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Jacques 4:2. Nul doute, nous sommes trop faibles pour résister aux assauts de nos ennemis. Mais il est non moins certain que Dieu est fidèle, comme dit l'apôtre. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. 1 Corinthiens 10:13. Nous sommes faibles, mais Dieu est fort. Quand nous l'appelons à notre aide, il nous communique sa force. Alors nous pourrons tout, comme le dit le même apôtre en ces termes, « Je puis tout en celui qui me rend fort ». Philippiens 4:13. Il est donc sans excuse, au dire de saint Jean Chrysostome, celui qui succombe parce qu'il néglige de prier, car s'il avait prié, il n'aurait pas été vaincu par ses ennemis.
L'invocation des saints et des âmes du purgatoire. L'intercession des saints. Est-il nécessaire de recourir aussi à l'intercession des saints pour obtenir les grâces de Dieu ? Quant à la proposition « Il est licite et utile d'invoquer les saints comme intercesseurs pour nous obtenir, par les mérites de Jésus-Christ, ce dont, par nos démérites, nous ne sommes pas dignes », elle est la doctrine même de l'Église, comme l'a déclaré le Concile de Trente. Une telle invocation est condamnée par Calvin, mais trop injustement. Il est permis et avantageux d'appeler à notre secours les saints encore vivants et de leur demander l'assistance de leurs prières. Témoin le prophète Baruch, qui disait « Priez aussi pour nous le Seigneur notre Dieu » Baruch 1,13 et saint Paul « Mes frères, priez pour nous » 1 Thessaloniciens 5,2. Et Dieu lui-même veut que les amis de Job se recommandent à ses prières, afin qu'en vertu des mérites de ce saint homme, il leur rendît ses faveurs. « Allez à mon serviteur Job priera pour vous, et j'agréerai ses prières. » Job 52,8. Or, s'il est permis de se recommander aux vivants, pourquoi serait-il défendu d'invoquer les saints, qui, au ciel, de plus près, jouissent de Dieu ? Ce n'est point là déroger à l'honneur dû à Dieu, mais le redoubler. Comme le serait d'honorer un roi, non seulement dans sa personne, mais dans ses serviteurs. C'est pourquoi saint Thomas estime bon de recourir à plusieurs saints, parce qu'on obtient parfois par l'intercession de plusieurs ce qu'on n'obtiendrait pas par l'intercession d'un seul. Et si quelqu'un objectait, « Mais à quoi sert de recourir aux saints afin qu'ils prient pour nous, quand déjà ils prient pour nous ?» quand déjà il prie pour tous ceux qui en sont dignes. Le même saint docteur répond « Quelqu'un pourrait être indigne que les saints intercèdent pour lui, mais il en devient digne par cela même qu'il recourt à un saint avec dévotion. » L'intercession des âmes du purgatoire. On discute ensuite s'il est bon de se recommander aux âmes du purgatoire. D'aucuns soutiennent que les âmes en expiation ne peuvent prier pour nous. Ils y sont amenés par l'autorité de saint Thomas, qui enseigne que ces âmes, étant là pour se purifier au sein des peines, nous sont inférieures et donc ne sont pas en situation de prier, mais plutôt de bénéficier de nos prières. Mais de nombreux autres docteurs, comme saint Bellarmin, Silvius, le cardinal Gotti, Lesius Medina, affirment avec beaucoup plus de probabilité, on doit le croire pieusement, Dieu leur manifeste nos prières afin que ces saintes âmes intercèdent pour nous et qu'ainsi, entre elles et nous, soit conservé ce bel échange de charité. Elles prient pour nous et nous prions pour elles. N'y fait pas obstacle, au dire de Silvius et de Gotti, l'allégation de saint Thomas d'après laquelle les âmes en expiation ne sont pas en état de prier. Car une chose est de ne pas se trouver en état de prier et autre chose de ne pas pouvoir prier. C'est vrai, ces âmes saintes ne sont pas en état de prier parce que, comme le dit saint Thomas, se trouvant là pour souffrir, elles nous sont inférieures, ayant plutôt besoin de nos prières. Néanmoins, en telle situation, elles peuvent bien prier, étant des âmes amies de Dieu. Si un père, malgré son tendre amour pour son fils, le tenait en prison, en punition de quelque faute, le fils alors ne serait certes pas en situation de prier. Mais pourquoi serait-il incapable de prier pour les autres, avec l'espoir d'obtenir ce qu'il demande, sachant l'affection que lui porte son père ? Les âmes du purgatoire étant ainsi très aimées de Dieu et confirmées en grâce, il n'existe aucun empêchement leur interdisant de prier pour nous. L'Église, cependant, n'a pas coutume de les invoquer et d'implorer leur intercession, car, ordinairement, elles ignorent nos prières. Mais on croit pieusement, comme nous avons dit, que Dieu leur manifeste nos prières. Et alors, elles, toutes remplies de charité, ne cessent certainement pas de prier pour nous. Sainte Catherine de Bologne désirait-elle quelque grâce, elle recourait aux âmes du purgatoire et vite se voyait exaucée. Et même, elle attestait que beaucoup de grâces non obtenues par l'intercession des saints, elle les avait ensuite reçues par l'intermédiaire des âmes du purgatoire. Obligation de prier pour les âmes du purgatoire. Mais qu'on me permette ici une digression au bénéfice de ces saintes âmes. Si nous voulons, nous, le secours de leurs prières, il est bon que nous, de notre côté, nous veillions à les secourir par nos prières et nos œuvres. J'ai dit « il est bon », mais on doit même ajouter « c'est une des obligations chrétiennes ». La charité exige, en effet, que nous venions en aide au prochain quand il se trouve dans la nécessité d'être secouru et que nous le pouvons sans grand inconvénient. Or, c'est certain, les âmes du purgatoire sont encore pour nous au rang du prochain. Bien que n'étant plus en cette vie, ces âmes participent à la communion des saints. Les âmes des justes qui sont morts ne sont pas séparées de l'Église, dit saint Augustin. Saint Thomas le déclare plus expressément en affirmant « La charité due aux défunts entrés dans l'autre vie en état de grâce est une extension de cette même charité obligatoire envers nos frères vivants. » De là découle notre devoir de secourir, selon notre pouvoir, ces saintes âmes comme notre prochain. Et leurs besoins dépassant ceux des autres frères, plus grands encore à ce point de vue, semble notre devoir de leur prêter assistance. Or, en quelle détresse se trouvent ces saintes âmes prisonnières ? Pas de doute, leurs peines sont immenses. Le feu qui les tourmente est plus torturant, dit saint Augustin, que n'importe quelle peine capable de faire souffrir l'homme en cette vie. Saint Thomas pense de même, puis ajoute « Ce feu est identique à celui de l'enfer. » Voilà quant à la peine des sens. Mais bien plus grande est ensuite la peine du dâme, c'est-à-dire la privation de la vue de Dieu qui afflige ces saintes âmes. En effet, enflammées d'amour pour Dieu, non seulement d'un amour naturel, mais aussi d'un amour surnaturel, un vif élan les pousse à s'unir à leur souverain bien. Mais se voyant ensuite retenues par leurs fautes, elles éprouvent une peine si amère que, si elles étaient capables de mourir, elles mourraient à tout instant. Ainsi, d'après saint Jean Chrysostome, ce supplice de la privation de Dieu les tourmente immensément plus que la peine des sens. 1000 enfers de feu unis ensemble ne causeraient pas tant de peine que la peine du dâme. Dès lors, ces saintes âmes préféreraient endurer tout autre supplice plutôt que la privation, un seul moment, de cette union avec Dieu, objet de tant de soupirs. Le docteur Angélique assure que le purgatoire l'emporte en souffrance sur toute douleur possible en cette vie. D'après Denis le Chartreux, un certain défunt, ressuscité par l'intercession de saint Jérôme, dit à saint Cyril de Jérusalem que tous les tourments de cette terre sont soulagement et délice comparé à la moindre peine existant en purgatoire. Si un homme, ajoute-t-il, avait éprouvé ces peines, il voudrait endurer toutes les souffrances subies ou à subir par les hommes jusqu'au jour du jugement, plutôt que d'être soumis un seul jour à la plus petite des peines du purgatoire. C'est pourquoi saint Cyril écrivait « Ces peines, quant à leur rigueur, sont identiques à celles de l'enfer. Elles diffèrent en cela seulement qu'elles ne sont pas éternelles. » Les douleurs de ces âmes sont donc extrêmes. D'ailleurs, elles ne sont pas en mesure de céder elles-mêmes. Suivant l'expression de Job, elles sont tombées dans les fers et sont prises dans les liens du malheur. Job 26, 18. Reines, elles sont déjà destinées au trône, mais elles sont empêchées d'en prendre possession avant le terme de leur purification. Elles sont donc dans l'impossibilité de se secourir elles-mêmes au moins d'une façon suffisante, même en tenant compte de l'opinion de ces docteurs qui leur attribuent la capacité de se procurer par leurs prières quelque soulagement. Il ne leur est pas possible de rompre leurs chaînes tant qu'elles n'auront pas entièrement satisfait à la divine justice, comme le disait précisément depuis le purgatoire un moine cistercien ou sacristain de son monastère. « Aidez-moi de vos prières, suppliait-il, par moi-même je ne puis rien obtenir. » Et c'est conforme aux mots de saint Bonaventure, la mendicité empêche l'acquittement des dettes. En d'autres termes, ces âmes sont si pauvres qu'elles sont insolvables. D'autre part, il est certain, et même de foi, que nous pouvons soulager ces saintes âmes par nos suffrages, et principalement par les prières approuvées de manière spéciale et en usage aussi dans l'Église. Je ne sais donc comment pourrait être exempte de faute celui qui négligerait de leur procurer quelque secours, au moins par ses prières. Si le sentiment de notre devoir ne suffit pas pour leur venir en aide, laissons-nous au moins toucher par le plaisir procuré à Jésus-Christ, par la vue de notre zèle à délivrer ses âmes, et à lui permettre de les unir à lui dans le paradis. Enfin, l'acquisition de précieux mérites en notre pouvoir, si nous usons de cette charité envers ces saintes âmes, peut nous y décider. De leur côté, très reconnaissantes, elles apprécient le service signalé que nous leur rendons en adoucissant leurs peines et en avançant par nos prières l'heure de leur entrée dans la gloire. Une fois au ciel, elles ne manqueront pas de prier pour nous. Et si le Seigneur promet sa miséricorde à qui exerce la miséricorde envers le prochain, bienheureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde. Matthieu 5, 7. Il a tout lieu d'espérer son salut, celui qui s'applique à soulager ces saintes âmes si affligées et si chères à Dieu. Après avoir assuré le salut des Hébreux par sa victoire sur leurs ennemis, Jonathan fut condamné à mort par son père pour avoir goûté du miel contre son ordre. Mais le peuple se présenta au roi en criant. Jonathan mourrait donc, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël ? 1 Roi 14,45. Nous devons espérer exactement la même chose si l'un de nous obtient par ses prières qu'une âme sorte du purgatoire et monte en paradis. Cette âme dira à Dieu « Seigneur, ne permettez pas que se perde celui qui m'a délivré de mes tourments. » Et si Saül accorde la vie de Jonathan sur les instances du peuple, Dieu ne refusera pas aux prières d'une âme le salut de ce fidèle. En outre, saint Augustin nous l'assure, ceux qui, en cette vie, auront davantage secouru ces saintes âmes, étant à leur tour au purgatoire, Dieu les fera secourir aussi davantage par les autres. Signalons ici pour la pratique un excellent suffrage pour les âmes du purgatoire. Entendre la messe pour elles et les y recommander à Dieu par le mérite de la passion de Jésus-Christ, en disant par exemple « Père éternel, je vous offre ce sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ avec toutes les douleurs qu'il a souffertes dans sa vie et sa mort. Et par les mérites de sa passion, je vous recommande les âmes du purgatoire, et spécialement C'est aussi un acte de grande charité de recommander en même temps les âmes de tous les agonisants. Est-il nécessaire d'invoquer les saints ? Ce que nous avons dit par rapport aux âmes du purgatoire, savoir si elles peuvent ou non prier pour nous et s'il nous est avantageux de nous recommander à leur prière, ces questions ne se posent certes pas à l'égard des saints canonisés par l'Église et qui déjà jouissent de la vue de Dieu. Croire l'Église faillible dans la canonisation des saints ne saurait être exempte de faute ou d'hérésie, comme le veulent saint Bonaventure, saint Bellarmin et d'autres, ou du moins proches de l'hérésie, comme le tiennent Suarez, Azor, Gatti. Car, suivant l'enseignement du docteur Angélique, dans la canonisation des saints, tout particulièrement, le souverain pontife est guidé par l'assistance infaillible de l'Esprit-Saint. Revenons aux doutes proposés plus haut. Y a-t-il obligation de recourir à l'intercession des saints ? Je ne veux pas décider sur ce point, mais je ne puis m'empêcher d'exposer une doctrine du docteur Angélique. Tout d'abord, en plusieurs endroits cités plus haut, et spécialement au livre des sentences, il suppose certaine l'obligation de chacun à prier. Parce que, assure-t-il, si on ne les demande, les grâces nécessaires au salut ne peuvent s'obtenir d'une autre manière. Dans un autre endroit du même livre, le saint propose justement ce doute. Devons-nous prier les saints pour qu'ils intercèdent pour nous ? Et il répond ainsi. Pour faire bien comprendre le sentiment du saint, la citation intégrale de son texte s'impose. C'est un ordre établi par Dieu en toutes choses, selon Denis l'Aéropagite, que les créatures inférieures soient ramenées à Dieu par des intermédiaires. Or, comme les saints qui sont dans la patrie sont très proches de Dieu, l'ordre établi par cette loi divine exige que nous, demeurant dans un corps et voyageant loin de Dieu, nous soyons reconduits à lui par les saints, nos intermédiaires. Ce qui arrive lorsque, par eux, la divine bonté étend son effet. Notre retour vers Dieu devant répondre au processus de ses bontés envers nous, puisque les bienfaits de Dieu nous parviennent au moyen des suffrages des saints, ainsi nous faut-il être ramenés à Dieu pour recevoir de nouveau ses bienfaits par l'entremise des saints. De là vient que nous les constituons nos intercesseurs pour nous, auprès de Dieu, et presque nos médiateurs, quand nous leur demandons de prier pour nous. Notons ces paroles, l'ordre établi par cette loi divine exige. Et ensuite soulignons spécialement les dernières. Puisque les bienfaits de Dieu nous parviennent au moyen des suffrages des saints, ainsi nous faut-il être ramenés à Dieu pour recevoir de nouveau ses bienfaits par l'entremise des saints. Ainsi donc, d'après saint Thomas, l'ordre de la loi divine exige de nous, mortels, que nous nous sauvions par les saints, en recevant par leur entremise les secours nécessaires au salut. À l'objection qu'il se pose, à savoir, il semble superflu de recourir aux saints, tandis que Dieu est infiniment plus que miséricordieux et porté à nous exaucer, le docteur Angélique répond « Le Seigneur en a disposé de la sorte, non point par un défaut de puissance, mais pour conserver cet ordre équitable, étendu à tout l'univers, d'opérer par le moyen des causes secondes. » Appuyé sur l'autorité de saint Thomas, le continuateur de Tournely, avec Sylvius, écrit « Bien que Dieu seul doive être prié comme auteur de la grâce, néanmoins nous sommes tenus de recourir aussi à l'intercession des saints, pour nous conformer au sujet de notre salut, à l'ordre établi par le Seigneur. Les inférieurs doivent se sauver en implorant l'aide des supérieurs. » L'intercession de la Sainte Vierge. Si nous sommes dans le vrai en parlant ainsi de l'intercession des saints, à plus forte raison le serons-nous en l'appliquant à l'intercession de la Divine Mère. Ses prières sont certainement plus puissantes auprès de Dieu que celles de tout le paradis. En effet, dit saint Thomas, les saints, en proportion des mérites avec lesquels ils se sont acquis la grâce, ont le pouvoir de sauver nombre d'autres âmes. Mais Jésus-Christ, comme aussi sa mère, ont mérité tellement de grâce qu'ils peuvent sauver tous les âmes. Et saint Bernard, parlant de Marie, a écrit « Par vous, nous avons accès auprès du Fils, ô Mère du salut. Que par toi nous reçoive celui qui par toi nous fut donné. Il veut dire par là, comme nous n'avons accès auprès du Père que par le moyen du Fils, médiateur de justice, ainsi nous n'avons accès auprès du Fils que par le moyen de sa Mère, médiatrice de grâce. Elle nous obtient par son intercession les biens que Jésus-Christ nous a mérités. En conséquence, le même saint Bernard dit « En un autre passage, que Marie a reçu de Dieu deux plénitudes de grâce. La première a été l'incarnation du Verbe éternel, fait homme dans son sein très pur. La seconde a été la plénitude des grâces que nous recevons de Dieu par l'entremise des prières de cette divine mère. C'est pourquoi le saint ajoute « Dieu a placé en Marie la plénitude de tout bien, de sorte que s'il est pour nous quelque espoir, quelque grâce, quelque salut, attribuons-le à la surabondance de celle qui s'élève remplie de délices. Jardin de délices où affluent et d'où déroulent les plus précieux aromates, c'est-à-dire les dons de la grâce. Ainsi, tous les biens qui nous viennent du Seigneur, nous les recevons tous par l'intermédiaire de l'intercession de Marie. Et pourquoi donc cela? Parce que, répond le même saint Bernard, Dieu le veut ainsi. Telle est la volonté de celui qui a voulu que nous ayons tout par Marie. Mais la raison spéciale se déduit de ces paroles de saint Augustin. Marie, à juste titre, est dite notre mère parce qu'elle a coopéré par sa charité pour nous fidèles à notre naissance à la vie de la grâce, comme membre de notre chef Jésus-Christ. C'est pourquoi la Sainte Église nous l'a fait invoquer et saluer en termes absolus. Vita dulcedo, et spes nostra salve, notre vie, notre douceur, notre espérance. Dès lors, saint Bernard nous exhorte à recourir toujours à cette divine mère, parce que ses prières sont certainement exaucées par son Fils. Recours à Marie, je le dis sans hésitation. Le Fils exaucera certainement sa mère. Et il ajoute, « Mes petits enfants, c'est elle l'échelle des pécheurs. Elle, ma plus grande confiance. » En elle, toute ma raison d'espérer. Le saint l'appelle l'échelle parce que, comme sur une échelle, on ne monte au troisième échelon que si d'abord on met le pied sur le premier. Ainsi, on ne parvient à Dieu que par Jésus-Christ et on ne parvient à Jésus-Christ que par Marie. Il l'appelle ensuite sa plus grande confiance et toute la raison de son espérance. Parce que Dieu, comme il le tient pour acquis, veut faire passer par les mains de Marie toutes les grâces qu'il nous distribue. Il conclut finalement en disant que toutes les grâces désirées par nous, nous avons à les solliciter par l'entremise de Marie. Car tout ce qu'elle demande, elle l'obtient, et ses prières ne peuvent essuyer un refus. En conformité de sentiment avec saint Bernard, parle d'autres docteurs, saint Éphrem. Il n'est pour nous d'autre espoir que celui venant de vous, Vierge très pure. Sainte Ildefonse, tous les biens que la Souveraine Majesté a décrété d'octroyer, elle a établi de les confier à vos mains. Oui, vous sont confiés tous les trésors et les beautés de la grâce. Saint Germain, si vous nous abandonnez, qu'en sera-t-il de nous, ô vie de chrétien? Saint Pierre Damien, en tes mains se trouvent tous les trésors des divines miséricordes. Saint Antonin, demander sans Marie, c'est tenter de voler sans elle. Saint Bernardin de Sienne dit quelque part, vous êtes la dispensatrice de toutes les grâces. Notre salut est entre vos mains. Ailleurs, non seulement il enseigne que par l'intermédiaire de Marie nous sont transmises toutes les grâces, mais encore il avance cette assertion. La bienheureuse Vierge, en devenant mère de Dieu, par le fait, acquit une certaine juridiction sur toutes les grâces qui nous sont distribuées. Par la Vierge, dit-il, les grâces vitales sont transfusées du chef, le Christ, dans son corps mystique. Dès l'instant que la Vierge Mère conçut dans son sein le Verbe divin, elle obtint, si j'ose ainsi parler, une certaine juridiction sur toute procession temporelle du Saint-Esprit. De la sorte, nulle créature n'obtiendra de Dieu une grâce qui ne relève de la distribution faite par cette tendre mère. Et il conclut, c'est pourquoi tous les dons, vertus et grâces sont dispensés par ses mains à qui elle veut, quand elle veut et comme elle veut. Saint Bonaventure écrit de même, la nature divine tout entière s'étant renfermée dans le sein de la Vierge, je ne crains pas de dire que cette Vierge n'ait obtenu une certaine juridiction sur toutes les grâces qui en découlent. Dans son sein comme dans un océan divin, prennent leur source les fleuves de toute grâce. Appuyés dès lors sur l'autorité de ces saints, beaucoup de théologiens, avec piété et raison, ont soutenu l'opinion qu'aucune grâce ne nous est distribuée que par l'intercession de Marie. Ainsi pensent Vega, Mendoza, Pacciuccelli, Segneri, Poiret, Grasset et beaucoup d'autres auteurs, avec le savant père Noël Alexandre qui s'exprime ainsi. Dieu veut que nous attendions de lui tous les biens, devant les obtenir de la très puissante intercession de Marie, quand nous l'invoquons comme il convient. Et il cite à l'appui le passage de saint Bernard rapporté plus haut. Telle est la volonté de Dieu qui a voulu que nous tenions tout de Marie. Le père Contenson écrit de même à propos des paroles adressées à saint Jean par Jésus en croix, « Voici votre mère ». C'est comme s'il disait, « Personne ne participera au mérite de mon sang si ce n'est par l'intercession de ma mère. Mes plaies sont les sources de la grâce, mais leurs ruisseaux ne parviendront à personne sinon par le canal de Marie. Jean, mon disciple, tu seras aimé de moi en raison de ton amour pour Marie. Du reste, il est certain que si Dieu agrée notre recours au saint, bien plus sera-t-il pour agréable de nous voir mettre à profit l'intercession de Marie. À elle de suppléer par ses mérites à notre indignité, suivant cette parole de Suarez, afin que la dignité de l'intercesseur supplée à notre indigence. D'où invoquer Marie, ce n'est point se défier de la divine miséricorde, mais redouter notre propre indignité. Parlant ensuite de la dignité de Marie, saint Thomas l'appelle presque infinie. Donc nous disons avec raison que les prières de Marie sont plus puissantes auprès de Dieu que les prières de tout le paradis réuni. Conclusion. Terminons. En définitive, une conclusion découle de tout notre exposé. Celui qui prie se sauve certainement, celui qui ne prie pas se damne certainement. Tous les élus, à l'exception des enfants, se sont sauvés par la prière. Tous les damnés se sont perdus faute de prière. S'ils avaient prié, ils ne se seraient pas perdus. Tel est et tel sera dans l'enfer leur principal sujet de désespoir. Avoir pu se sauver avec tant de facilité en implorant de Dieu les grâces nécessaires et maintenant les malheureux n'être plus à même de les demander.